Smaïl Cherghi, bonjour.
Bonjour.
Comment réagissez-vous à la contre-offensive victorieuse du camp du Premier ministre Sarraj en Libye?
Moi, je pense que c'est le fait que nous n'avons pas été écoutés dès le début et que nous avons dit que le choix de la solution militaire ne mène pas à une solution durable. Et donc, c'est vraiment dommage qu'on ait perdu tous ces mois-ci. Nous espérons que les uns et les autres auront définitivement appris la leçon et convergent vers une solution apaisée, surtout entre Libyens eux-mêmes.
Donc il y a un an, en avril 2019, le maréchal Haftar a eu tort de lancer cette offensive contre Tripoli ?
Bon, je me rappelle exactement ce moment parce que deux jours avant, nous avions visité nous-mêmes, le président de la commission et moi-même, Tripoli et Benghazi. Et on voit aujourd'hui que finalement, cela n'a fait que rendre la situation beaucoup plus complexe. L'arrivée de mercenaires en grand nombre, l'arrivée d'armements en tonnes et en tonnes, avec leurs conséquences au niveau libyen, mais aussi au niveau du Sahel.
Donc aujourd'hui, l'heure est à la contre-attaque et le camp Sarraj espère s'emparer de Sirte et des champs pétroliers au fond du golfe de Sirte.
Bon, il me semble qu'il y a actuellement des efforts pour qu'on n'arrive pas justement à un autre bain de sang à Sirte. Même. Déjà qu'il y a quelques jours, il a fallu vraiment une intervention vigoureuse des Nations Unies et d'autres parties pour libérer un certain nombre de civils qui étaient bloqués dans la région. Donc les efforts en cours et les échanges entre les capitales des principaux acteurs actuellement sur le terrain me font espérer que l'on puisse trouver une solution pacifique autour de la ville de Sirte.
Les négociations sous l'égide des Nations Unies.
Vous avez pu entendre les déclarations dans les grandes capitales, que ce soit à Moscou, que ce soit à Washington, que ce soit en Turquie ou ailleurs. Donc il y a certainement des échanges actuellement qui font que peut-être la solution apaisée est privilégiée et qu'on puisse tous pousser les Libyens vers le dialogue et la négociation.
Les échanges actuels entre les acteurs qui vous laissent espérer qu'il n'y aura pas de bataille de Sirte, ce sont des échanges directs et très secrets entre Russes, Turcs, et Libyens, ou bien ce sont des échanges sous l'égide des Nations Unies et de vous-même, l'Union africaine ?
Je pense que c'est des échanges qui sont directs. Nous en sommes informés plus tard, mais pour nous, c'est positif. Donc j'espère que dans les prochains jours, nous pourrons avoir de bonnes nouvelles.
Oui, mais pour éviter la bataille de Sirte, il faudra faire des concessions, surtout du côté de l'Est et du maréchal Haftar, non ?
Je crois que c'est des deux côtés. Je crois qu'il y a des demandes précises du gouvernement à Tripoli. Maintenant, les demandes sont beaucoup plus élevées que par le passé, c'est normal. Contre quelqu'un qui a réussi des avancées victorieuses sur le terrain. Mais je pense qu'il faut évidemment que les deux parties soient en position d'accepter des solutions médianes. Mais surtout, une fois que nous aurons les parties autour de la table de négociation et que nous puissions contribuer tous à trouver cette solution durable, inclusive, vous verrez que la question de telle ou telle ville, on parle de Sirte, on parle de Jofra, on parle d'autres villes, deviendrait secondaire parce que là, c'est une approche qui concernerait tout le territoire libyen et nous insistons sur l'intégrité de la Libye, qu'elle soit préservée.
Voulez-vous dire que les négociations actuelles vont au-delà d'un partage d'influence ? Il pourrait y avoir un véritable accord politique qui réunifierait les deux camps ?
Je l'espère, je l'espère. Nous ne sommes pas dans le secret de ces entretiens, mais moi j'estime que ces échanges sont positifs et sont de nature à faciliter des solutions pacifiques.
Des négociations dans lesquelles Aguila Salé, le président du Parlement de l'Est, jouerait un rôle important alors ?
Je pense des deux côtés. Je pense qu'ils sont en train de... Autant Aguila Salah que le président Sarraj doivent être normalement impliqués dans ce genre de négociations.
Alors, vous l'avez dit, hein, le camp Sarraj est tenté de faire des demandes plus importantes qu'avant, puisqu'il a gagné sur le terrain ces dernières semaines. Quel est l'intérêt pour le camp Sarraj et pour la Turquie d'arrêter son offensive et de traiter avec l'adversaire, le maréchal Haftar ?
Je crois qu'au final, je pense qu'aucune des deux parties ne gagnerait à vouloir élargir cette approche militaire avec ses conséquences intolérables pour les Libyens eux-mêmes, pour l'engagement de tous ces combattants et mercenaires sur lesquels d'ailleurs on doit commencer maintenant à travailler. Comment rapatrier et permettre à tous ces mercenaires de revenir vers d'où ils sont venus?
Oui, mais la Turquie est en train de faire de gros investissements à l'ouest de la Libye. Elle souhaite même installer deux bases militaires à Al-Watiya et à Misrata. Comment vous réagissez?
Je pense qu'il ne m'appartient pas de parler au nom des Libyens. Le gouvernement qui est reconnu internationalement a fait appel à la Turquie, comme d'autres puissances sont intervenues de l'autre côté. Donc ce qui est important, et c'est ça le sens de l'appel répété de l'Union africaine, c'est que cessent les interventions extérieures dans les affaires libyennes et qu'on puisse réellement permettre aux institutions légales de pouvoir gérer cette situation. Il me semble qu'il y a des efforts actuellement pour faire contribuer le Parlement d'El Baïda pour une solution immédiate au problème. Donc, on voit qu'il y a encore des déplacements dans tous les pays de la région, aussi bien de Sarraj, du Premier ministre Sarraj, que du président Akila du Parlement d'El Baïda. Donc, moi, je pense qu'il faudra que nous puissions consolider ce genre d'efforts qui puisse peut-être nous permettre d'avoir une solution durable à cette crise.
Donc vous êtes aussi préoccupé par l'intervention russe aux côtés du maréchal Haftar que par l'intervention turque aux côtés du Premier ministre Sarraj.
Moi, je pense que dans ce conflit, malheureusement, nous avons vu que aussi bien la France, la Russie, la Turquie, les Émirats arabes unis et d'autres pays étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce conflit.
Vous dites qu'une solution pourrait passer par Aguila Saleh, qui préside le Parlement d'El Baïda, à l'est de la Libye. Voulez-vous dire que le maréchal Haftar devrait peut-être se mettre à l'écart?
Bon, je disais tout à l'heure que désormais, c'est à l'approche politique de prévaloir sur toute approche militaire. Donc, il se trouve que le président Aguila Saleh a initié une initiative dans le cadre de cette chambre d'El Baïda. Donc, il faudra combiner cet effort politique pour remettre le dialogue et la concertation au centre de nos efforts à tous.
Depuis le mois de mars dernier et le départ de Rassane Salamé, il n'y a plus d'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye. Pour lui succéder, on a parlé un moment de l'ancienne ministre ghanéenne, Anna Serwa Tété. Où en est-on aujourd'hui?
C'est un embarrassement pour tout le monde que, au moment où nous avons besoin d'une personnalité importante qui a l'expérience et qui peut conduire ce genre de négociation, les Nations Unies n'ont pas encore ce représentant. Donc, nous avons maintenant une nouvelle proposition sur la table, c'est de diviser la mission des Nations Unies en deux. Celle qui s'occupe de la gestion au quotidien de la mission, qui serait confiée à une personnalité, et ensuite le dossier de négociation qui serait confié à une autre personnalité.
C'est-à-dire qu'on séparerait la fonction d'envoyé spécial et la fonction de chef de mission?
Absolument.
Et Anna Serwa Tété, la ministre ghanéenne, pourrait occuper l'une de ces deux fonctions alors?
On nous dit que sa personne ne pose pas de problème pour qu'elle soit retenue. Maintenant, l'envoyé sur le dossier principal à qui on enlèverait la gestion de la mission sur le terrain, est-ce que l'envoyé ne va pas l'affaiblir? Donc, la question mérite d'être posée.
En février, à l'issue du dernier sommet de l'Union africaine, vous avez proposé un grand forum de réconciliation interlibyen en terre africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, cette proposition n'est pas devenue caduque?
Au contraire, je pense que si vraiment, actuellement, nous arrivons à réengager les parties dans la négociation, il serait bon qu'avec l'adoption d'un accord politique par toutes les parties, il serait bon de l'accompagner par un véritable forum de réconciliation de tous les Libyens avant même qu'ils aillent à l'élection. Je pense que de la sorte, nous nous assurerons que les Libyens vont adhérer à cette démarche et que le résultat de leurs élections seront acceptés par tout le monde. Donc, plus on élargit, plus on est inclusif, et mieux on est sûr que la solution serait mieux reçue, mieux acceptée, et surtout mieux mise en œuvre par les Libyens. Donc, nous pensons que l'appel et l'approche de l'Union africaine restent plus que jamais d'actualité et valide.
Monsieur le Commissaire, merci.